Je suppose que pour l'instant, tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du lapin blanc. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit, parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment.
Témoignage. Parti pris. Coup de gueule. Bienvenue dans Chronique d'un quadra, le podcast sans langue de bois qui décomplexe les sujets complexes.
Un adage qui dit qu'on fait toujours du mal à ceux qu'on aime, mais il oublie de dire qu'on aime ceux qui nous font du mal.
Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique d'un quadra, le podcast qui décomplexe les sujets complexes. Alors on est toujours dans le volume 4, on est toujours en train d'arpenter ce chemin, et pour illustrer en fait ce chemin qu'on arpente, donc je rappelle la référence qui est issue de la trilogie Matrix, le premier épisode où Morpheus dit à Neo « Je ne peux te montrer que le chemin, il appartient à toi de l'emprunter. » Donc c'est exactement ce qu'on fait ensemble. Donc ce volume, ce titre d'arpenter le chemin, bah, ça correspond à l'après et aussi les objectifs qu'on peut se mettre dans une vie quand on est dans une reconstruction ou même dans une construction tout court, hein, c'est-à-dire essayer tout un tas de nouvelles choses, de faire une liste mentale des possibilités qui nous appartiennent. Donc là, on est directement au final dans ce qu'on pourrait appeler la base du développement personnel, mais qui, quand on l'observe, hein, quand vous écoutez les uns et les autres, quand ils font du dev perso, eh ben, vous remarquerez que le dev perso, ils font souvent à plusieurs et jamais seul, ce qui est aussi un paradoxe. Donc, dans cette liste mentale des choses que vous auriez envie de faire, des cases à cocher, moi en tout cas, dans les miennes, il y avait l'écriture. Donc c'est pour ça qu'on est typiquement, même si c'est un épisode bonus, et on va pas se mentir aussi, c'est aussi un épisode qui sera complémentaire du roman quand il sera publié, parce que d'une, il va peut-être permettre de vous mettre l'eau à la bouche, de deux, peut-être que vous vous direz, tiens, c'est complètement flingué, il sait pas écrire, et de trois, il y a une autre possibilité aussi, peut-être qu'une fois le roman en main, et ça je développerai un petit peu l'idée du projet, eh ben, vous vous mettrez à réécouter cet épisode, parce que dans ce cas-là, le podcast sera complémentaire, parce que c'est comme ça que je le vois, ce que j'ai écrit n'est pas une redite de ce qui a été dit oralement, mais je le vois comme quelque chose de complémentaire. Donc en fait, dans cette liste, pour en revenir à cette idée-là, dans cette liste mentale qu'on peut avoir, imaginez un fichier Excel où vous pourriez cocher des cases, et ben moi, il y avait le fait d'écrire. Et c'est vrai que et j'ai toujours repoussé cette échéance pour plein de mauvaises raisons. Hein. Donc imaginez-le un petit peu comme cette période de l'année qui va arriver, hein, qui correspond à la fin de l'année, au début de l'année, où on prend des résolutions. Et souvent, bon, on met plein de choses en termes de résolution, et les trois quarts du temps qu'on arrive à l'année suivante, eh ben, on se rend compte qu'on n'en a pas fait la moitié, et quasiment peut-être aucune. Donc C'est vrai que l'écriture, c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu taraudé. J'ai toujours émis le souhait de le faire, et dans les mauvaises, dans les mauvaises excuses, on va dire, pour ne pas les faire, c'était toujours le temps qui me manquait, et bien entendu, le plus gros frein qu'il peut y avoir aussi, et ça serait, et si c'était nul ? Voilà. Et donc ça, c'est lié au manque de confiance. Bien entendu que quand on commence à faire quelque chose, c'est jamais... Quand le résultat est devant vous, on n'est jamais sur un résultat optimal. Ça nécessite du travail, du temps pour pouvoir s'améliorer. Donc, ce que vous aurez, enfin, je vous le souhaite en tout cas pour les curieux, les curieuses entre les mains, même si j'aurais fait plusieurs passes dessus, ça reste quand même un premier roman. Et comme tous les premiers romans, à l'image des premiers films, eh ben, on y décèle un style, mais il y a aussi des scories, donc c'est-à-dire des petits raccourcis, des maladresses qui font que, si j'en écris d'autres, avec le temps, ça s'éliminera. Mais effectivement, quand on remettra cette œuvre dans le contexte, ça aura le charme, l'énergie et l'impact de la première œuvre écrit sur un coup de nerf. Et c'est ce que j'aime aussi, voilà, quand je fais un petit peu des liens sur l'univers musical, c'est ce que j'aime aussi dans mes premiers albums. Si on prend l'exemple notamment du métal, si on prend l'exemple de Metallica, leur premier album, Kill 'Em All, il a un son, donc c'est là qu'on se dit que Metal Advisory intervient dans Chronique d'un Quadra, il a un son, une énergie qu'on ne retrouvera jamais par la suite dans l'ensemble de leur discographie. Donc, et ce son quasiment un peu métallique, on peut le dire, mal produit, amène une énergie de l'instant T qu'on ne retrouvera pas par la suite. Donc il y a aussi la magie de ces premières œuvres, en fait. Il y a le contexte de l'enregistrement, et donc j'imagine que pour un roman, il y a le contexte d'écriture, et il y a le contexte de vie, la temporalité, qui fait qu'après, on parle d'autre chose. Voilà. Donc, le premier frein que je pouvais avoir, c'est et si c'était nul, et quelque part, j'ai toujours écrit. Voilà, donc l'autre podcast qui s'appelle 7ème Dimension, qui est dédié au cinéma, était une revue que j'ai édité pendant quasiment une vingtaine d'années, voilà. Et c'est vrai que par le biais du cinéma, par le biais de la critique et de la chronique, j'avais même écrit des nouvelles à l'intérieur, effectivement, il y avait un travail d'écriture, que ça soit dans mon métier, dans l'audiovisuel, avant de partir tourner une publicité ou un film corporate, ou même dans l'élaboration, en fait, d'un pilote d'émission télé, il y a toujours un contexte d'écriture. Mais j'ai toujours trouvé une excuse pour écrire, mais pas ce que je devrais écrire. Donc j'ai écrit pour le boulot, et donc c'est toujours facile d'écrire pour le boulot. Et même, je pense que le moment où cette idée d'écriture a fait son chemin, c'est quand, pour des campus en ligne, j'ai rédigé des vingtaines et des vingtaines de pages pour ce qu'on appelle des unités pédagogiques, et je me suis dit, mais putain, si t'arrives à écrire une vingtaine de pages sur un truc aussi barbant que ça, je suis sûr que, voilà, je me disais ça à moi-même, que tu pourrais t'éclater à raconter quelque chose d'autre, voilà. Et au final, ce quelque chose d'autre, il se trouve que c'est mon expérience de vie, voilà, tout bêtement. Alors, j'ai des idées d'œuvres de fiction, mais bizarrement, la première chose que j'ai eu envie d'écrire, c'était cette chose-là. Alors, vous pourriez vous dire que le fait de raconter son expérience de vie, notamment une expérience de vie parfois douloureuse, dramatique, pourriez vous dire que je suis encore dans un épisode cathartique par rapport à ce que j'ai vécu. Vous auriez peut-être raison, mais quand je l'ai écrit, j'étais pas dans le dur ou dans le mal ou dans ce besoin irrépressible comme j'avais pu l'avoir peut-être aussi en prenant la parole dans le premier volume de Chronique d'un Quadra, où je trouvais important, au-delà du cathartique, de propager une parole masculine sur un contexte qui malheureusement a tendance, on a tendance à n'avoir que des témoignages féminins. Voilà, on parle souvent, ça je l'avais expliqué, même si j'ai évacué très vite le terme de manipulatrice, perverse, narcissique, et parler plutôt de sociopathie, de névrose et de psychose, mais les trois quarts du temps, quand on va chercher en fait ce genre d'expérience de vécu, ce sont des témoignages féminins envers des pathologies qu'on croirait, au final, entièrement masculines, alors que c'est pas le cas. Et c'est aussi ça la beauté de la chose, c'est qu'à l'heure où on prône l'égalité, l'équité entre hommes et femmes, et ben les névroses et les psychoses, elles obéissent aussi à la même loi, c'est-à-dire parité, quelque part. Donc là où il y a des cons, il y a des connasses aussi, voilà. Là où il y a des salauds, il y a des salopes. Et ça, c'est important aussi de dire des mots vulgaires dès le début de l'enregistrement de cette partie-là. Donc, le point de départ... C'était, alors ça je l'avais raconté aussi à Lucas dans l'épisode sur femmes et féminité, c'est vrai qu'à un instant T où j'étais préoccupé par un cas de figure, mesdames, qui vous concerne, voilà, et ben le fait d'écrire s'est imposé à moi, et du coup j'étais jusqu'au bout de la démarche, voilà. Ça a été pour moi un moyen aussi d'y voir plus clair, d'échapper à ça, et de réaliser aussi ce projet-là. Donc, ce projet d'écriture, alors, on va en parler. Donc, j'ai toujours eu envie de raconter, hormis cette histoire qui a été celle du point de départ de Chronique d'un Quadrat, donc cette histoire avec Blabla, Voldemort, j'ai toujours eu envie de raconter mon vécu, mais pas forcément celui-ci, parce que j'ai toujours senti, de par le en tant qu'homme, hein, de par par mon vécu avant elle, pendant elle, après elle, qu'il y avait une forme d'arnaque entre ce que j'ai pu observer moi dans mon milieu familial, les valeurs qu'on m'a données, et la réalité du terrain. Et cette réalité du terrain, voilà, elle est de plus en plus biaisée par des variables, par des phénomènes extérieurs, par une volonté en fait de maintenir les uns et les autres en opposition, et surtout célibataire, parce que forcément le but ultime là-dedans, c'est que c'est le capitalisme, c'est qu'on soit seul pour consommer de plus en plus. Parce que gardez en tête, de toute manière, que quand on se met avec quelqu'un, qu'on fait bloc et qu'on commence à construire de la valeur, du capital, forcément, on s'enrichit et du coup, on consomme moins. Voilà. Donc, il n'y a aucun intérêt sociétaire à ce que les gens aillent dans cette direction. Donc, forcément, moi, dans ce constat-là, j'ai essayé de chercher, bon, j'avais déjà lu ces auteurs-là, mais j'ai essayé de chercher des réponses, un petit peu, que ça soit dans les médias transversaux, comme par exemple le podcast est un média numérique transversal, donc j'ai essayé de chercher des réponses là-dedans, il y en a quelques-unes, mais le gros est occupé, en fait, vous voyez, la masse des informations est parasitée toujours par des contextes communautaires en opposition. Néo-féminisme, masculinisme, wokisme, véganisme, toutes ces choses-là, en fait, toutes ces communautés-là vont propager, parce qu'il s'agit de communautés, qu'on le veuille ou non, avec une appartenance, des codes, etc., qu'ils soient alimentaires, vestimentaires, tout ce que vous voulez. Donc, sont parasités, et au final, chacun croit détenir une certaine forme de vérité qui est complètement biaisée dès le départ. Voilà. Et quand on creuse, il faut creuser très loin, moi je suis allé dans le cinéma creuser très très loin, c'est-à-dire j'ai même consommé des œuvres cinématographiques qui ne m'intéressaient pas forcément, donc je suis allé du côté des premiers Hitchcock, je suis remonté vraiment en arrière, et au niveau littéraire c'est pareil, je suis remonté en arrière et j'ai pris aussi des contextes contemporains. Et c'est vrai que du point de vue masculin, parce que c'est ça qui m'intéresse, je ne vais pas être le porte-parole d'un constat féminin, parce que d'une, je ne suis pas une femme, de deux, je suis un homme, donc je vais parler de ce que je connais, voilà. Et quand je parle des femmes, c'est, on va dire, de par mon expérience, de ce que j'en ai compris, et, on va dire, du rapport que j'ai avec elles, et en aucune manière, je ne me mets à leur place, en fait, vous voyez. Donc, en creusant un petit peu, quand on remonte dans un constat, parce que ce qui m'intéresse, je ne vais pas prendre l'exemple sociétaire nord-américain, parce que nous ne sommes pas aux États-Unis, nous sommes en France. Donc j'ai remonté aux écrits de Molière, j'ai remonté, et ça nourrira aussi le prochain épisode dédié à la séduction. Donc j'ai remonté quelle est la spécificité française, latine, quels sont nos codes. Et effectivement, dans les représentants d'aujourd'hui, littéraires, franco-français, on va avoir Frédéric Becbédé, on va avoir Michel Houellebecq, on va avoir Marc Lévy, on va avoir des gens comme ça. Et c'est vrai que quand on prend du recul un petit peu, ils parlent de ce qu'ils connaissent, mais de manière générale, ils restent une anomalie, ils ne peuvent pas être les porte-parole, on va dire, des hommes, ou d'un ensemble d'hommes, ou d'une société, dans le sens où ils sont issus, et et parle en fait d'un contexte sociétaire qui est celui des privilégiés quelque part. Voilà. Donc même si j'apprécie énormément la plume de Frédéric Becbédé, ce qu'il raconte, même si c'est distrayant, le commun des hommes, enfin on va dire la classe moyenne, ne peut le connaître. Voilà. Il peut relier certaines expériences en soirée, mais ces cocktails, les gens et les références qui sont affiliés n'appartiennent pas au monde de la classe moyenne. Ça va être la même chose pour Michel Houellebecq, qui lui va mettre peut-être de la misère sexuelle, de la classe moyenne à l'intérieur, mais c'est le point de vue de quelqu'un qui s'en est extrait et qui côtoie les hautes sphères. Donc, il y a un regard romanesque là-dessus et une volonté aussi, parce que ça c'est vraiment spécifique à Houellebecq, et j'aime beaucoup hein, sa manière d'écrire, mais lire du Houellebecq, aller jusqu'au bout de son roman, c'est comme se taper Million Dollar Baby, c'est-à-dire tu viens voir un film de boxe et après ça finit sur un film sur l'euthanasie. Voilà, donc ça te nique un petit peu ta soirée. Voilà. Donc, et Marc Lévy, c'est encore autre chose. Lui, on est dans le strass et les paillettes de quelque chose qui n'existe quasiment plus, voilà, et qui va distraire, alors là, au contraire, la classe moyenne, mais avec de la poudre de perlimpinpin. Donc, c'est vrai qu'en faisant un petit peu, parce que c'est typiquement, on va dire, de la strate de com', on va dire, en faisant ce bench-là, je me suis dit que si j'arrivais à raconter l'histoire qui est la mienne, et en y mettant les formes, je pense concrètement qu'il y a une place, on imagine en fait hein, les étagères des libraires, je pense que sur ces étagères-là, il y a une place, et toute proportion gardée, hein, j'ai pas les chevilles qui enflent ou la tête qui ne passe plus à travers la porte, je pense réellement que mon expérience de vie, qui fait ma richesse au final, parce que voilà, je ne serai jamais riche, on va dire, des fruits de mon travail. Je vis, je n'ai pas à me plaindre, hein, je vis correctement, je suis satisfait de ce que j'ai, mais je ne serai pas riche. Mais par contre, ma richesse vient de mes expériences, quelles qu'elles soient, bonnes ou mauvaises. Et ça me permet aussi de transmettre auprès de mon enfant toutes ces informations-là. Voilà, parce qu'elle est dans un stade où elle va quasiment devenir majeure et a besoin de toutes les armes, et je lui amène aujourd'hui ce retour d'expérience que je n'ai pas eu de la part de mes parents, notamment au niveau des gens. Voilà, de bien appréhender, en fait, ce qui se cache en sous-main. Alors, je ne dis pas que tout le monde est mauvais, mais je dis de bien anticiper quelles sont les propositions sous-jacentes, et que oui, on n'est pas dans le monde des bisounours. Voilà. Et que même si tu pars avec un code de valeur, en face, ça va être compliqué qu'il y ait quelque chose de similaire. Voilà, donc de partir avec ces bases-là. Donc, je me dis que moi, de toute façon, je ne pète pas plus haut que mon cul, dans le sens où je suis issu de la classe moyenne, et jusqu'à preuve du contraire, même si j'ai, on va dire, quelque part, je travaille dans quelque chose qui me plaît et je m'en sors plutôt bien, j'ai pas l'impression que je me suis extrait de cette classe sociale, parce qu'on en est là, et que ça serait compliqué, même très compliqué, ça j'en parlerai aussi, sur un épisode, toujours dans ce volume 4, dédié à l'entrepreneuriat que j'appellerais marche ou crève. Donc c'est compliqué quand on va l'imaginer comme le plafond de verre, le système français est comme cela, ça va être très compliqué d'exploser ce plafond en fait. Voilà. Donc je me dis que cette histoire qui est la mienne, au-delà de on va dire le point de vue micro, voilà, donc de manière macro, peut être, on va dire, une source de conseils ou d'inspiration sur les choses à faire ou ne pas faire ou s'y reconnaître. On va dire que j'ai la faible prétention de croire à cela en fait. Voilà, en ayant écrit ce premier roman. Donc là, je vais rentrer un petit peu dans le détail pourquoi j'ai écrit ça, de quoi ça parle, et pourquoi il y en a un, et pourquoi il y en a plusieurs, et il n'y en a pas un. Donc, c'est vrai que l'idée, pour moi, en fait, hein, c'était de partir de ce vécu avec Blabla, pour qu'on en ressorte, en fait, le pourquoi j'en étais arrivé là, parce qu'il y a toujours une raison, qu'il soit au niveau de l'éducation, qu'il soit au niveau, par exemple, du harcèlement scolaire que j'avais pu subir au collège, donc plein de petites choses, en fait, en filigrane, qui amènent une certaine porosité au niveau de ma personnalité à s'accorder à une personnalité aussi toxique que celle de Blabla, par exemple. Donc ça veut dire que il y a déjà potentiellement deux choses à raconter. C'est-à-dire qu'il y a, ce contexte-là, donc qui est celui avec Blabla, et le contexte d'avant. Et surtout l'après. Donc, au final, une structure ternaire. Voilà, thèse, antithèse, synthèse. Donc, moi, quand j'ai commencé à écrire ce roman, je voyais un seul roman. Et en me renseignant, parce que le but, je vais jusqu'au bout de l'idée, que ça plaise ou pas, que ça soit édité par un éditeur ou par mes soins, mais quelque part, je me suis renseigné sur le mode d'édition, et c'est vrai qu'une première œuvre, voilà, les éditeurs, voilà, je vous le dis, ça sera pour votre culture personnelle, ils n'éditent pas au-delà de 250-300 pages. Voilà. Donc moi, l'histoire que j'avais racontée, donc c'est-à-dire, je le voyais découpé en trois parties, donc partie 1, qui couvrirait, et ça, voilà, vous le verrez quand vous aurez le livre entre les mains, bien avant Blabla, et à la fin de Blabla, donc c'est-à-dire de 2015 à fin 2020, voilà. Et après, je voyais en retour en arrière, dans la partie 2, et partie 3, c'est-à-dire, ben, une fois qu'on est resté en suspens sur la fin de Blabla, qu'est-ce que c'est que la suite ? Et pour déboucher sur une autre direction. Donc voilà. Donc ça, je l'avais plus ou moins quantifié à la louche. T'es dit, bon, c'est quelque chose qui va faire peut-être entre 600 et 700 pages. L'équivalent, modestement, d'un pavé de Stephen King de la grande époque. Hein. Donc voilà, les Tommy Knockers, le fléau, ce genre de choses qui ont été découpées au final en plusieurs volumes. Hein. Et en tombant sur cette information-là, eh ben, je me suis mis à prendre cette structure ternaire et la diviser, non pas en trois volumes, mais en trois tomes. Voilà. Donc c'est pour ça que... Et au final, je trouve ça assez intéressant parce qu'on revient sur le concept de trilogie, quelque part. Voilà. J'ai toujours été fan des trilogies, donc que ce soit la trilogie Matrix, la trilogie Star Wars, j'aime bien le côté trilogie. Donc, au final, c'est peut-être un juste retour des choses que cette histoire que j'ai racontée, elle soit découpée en trois tomes. Voilà. Donc là, j'enregistre en fait cet épisode bonus, voilà, qui a plusieurs vocations, comme je l'ai expliqué, c'est-à-dire expliquer le concept derrière ce projet d'écriture, tout en, on va dire, faisant un peu de communication autour, tout en, je le rappelle aussi, en étant complémentaire en fait du bouquin, j'ose l'espérer, quand vous l'aurez entre les mains. Voilà. Donc là, j'enregistre ça, on va dire, quasiment à la fin octobre. Et on en est où ? On en est que, après de multiples révisions, bon, il y a encore 2-3 coquilles à l'intérieur, donc que je rectifierai quand je saurai si je suis édité ou non, mais en tout cas, l'œuvre est mise en forme, il y a déjà eu des gens qui m'ont fait des retours, et j'ai demandé justement, j'ai dispatché à des proches de manière disparate, et de bien... on veut dire enlever l'idée qu'ils me connaissent et de considérer ça comme un bouquin. Donc sur une dizaine de personnes, donc j'en ai déjà 3 qui m'ont fait des retours, et jusqu'à présent, en tout cas, les retours sont plaisants, et ce qu'il en ressort, c'est qu'on m'a fait, moi je trouve que c'était un joli compliment, on m'a dit que c'était addictif. Voilà. Donc c'est-à-dire que quand on commence à le lire, on a envie très rapidement de savoir la suite, et ainsi de suite. Donc je pense que c'est peut-être le meilleur compliment. Une autre personne aussi, à qui je fais une petite dédicace, m'a dit que elle avait ri avec moi, pleuré avec moi, donc voilà, elle a l'impression que j'étais avec elle dans, voilà, tout au long de la lecture, donc c'était aussi un joli compliment à ce niveau-là. Maintenant, est-ce que ça sera édité ou non, j'en sais rien, enfin édité ou non, par un vrai éditeur entre guillemets, parce que je joue la carte jusqu'au bout. Donc là, à l'heure actuelle, ça fait une quinzaine, doit être 3 semaines, que j'ai envoyé sur une présélection d'éditeurs, que ça soit des manuscrits imprimés, voilà, ou des versions dématérialisées. Donc voilà, j'ai envoyé à une vingtaine d'éditeurs. Donc maintenant, c'est entre leurs mains. Et je me suis accordé, parce que bon, ils disent qu'ils ont un délai de réponse entre 2 mois et 6 mois. Moi, alors je sais pas si peut-être des gens de l'édition écouteront ce podcast, j'en sais rien. Moi, mentalement, je leur ai donné 2 mois. Donc c'est-à-dire que si dans 2 mois, il n'y a pas de réponse, je considérerais que ça sera à moi de l'éditer par mes propres soins. Alors pourquoi je me suis donné ce délai de réponse ? Bah, déjà, dans mon métier, quand on fait du teasing pour des émissions, etc., si le concept, il est bon, et qu'on le met, par exemple, quand on met un lien dans un mail en privé, etc., ou qu'on envoie ça, si on est obligé d'attendre un retour... c'est que ça n'a pas marqué les esprits. C'est un petit peu aussi comme dans les relations hommes-femmes, c'est comme dans les dates. Hein. Si la mayonnaise, elle n'a pas pris dès le départ, elle prendra pas par la suite, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, si au bout de 2 mois, alors même s'ils ont on va dire, s'ils sont inondés de demandes, après, j'ose pas croire que tout le monde écrit de A à Z une histoire qui se tient et l'envoie. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de merde, des choses qui sont pas abouties, des plans, des trucs. Bon, ça doit vite aller à la poubelle. Et donc, j'imagine que s'ils tombent sur ce que je leur ai envoyé et qu'ils en lisent 2 pages, si ça leur plaît, ils rappellent derrière. Voilà. Donc, ils ont pas besoin. Donc, s'ils ont lu 2 pages et qu'ils sont pas allés au bout, c'est que c'est parti à la poubelle. Donc, je vais pas attendre. Donc, 2 mois. Donc, ça nous amène. Voilà, si vous calculez bien, ça nous amène aux vacances de Noël et au début 2024. Moi, de toute manière, je suis en train de faire travailler un collègue à moi. Alors, c'est ça qui est bien aussi quand on est dans mon milieu, parce qu'on a quand même pas mal de réseaux. Donc, je suis en train de faire bosser un collègue sur les 3 couvertures des 3 tomes, en fait. Voilà, donc dès à présent. Et si je n'ai pas de retour, janvier 2024, je pense que ce sera plutôt à la fin janvier 2024, le livre sera disponible sur Amazon. Voilà, je me suis renseigné sur le on va dire le process. Donc, vous pourrez le commander en version brochée. Et en version e-book, je communiquerai là-dessus, je donnerai les liens, voilà, à partir de la fin janvier 2024. Maintenant, je laisse l'opportunité, on va dire, à la chance. J'ai joué la carte jusqu'au bout, j'ai fait les choses correctement, les versions éditeurs, imprimées que en version recto. C'est toujours pareil, hein, pour ceux et celles que ça intéresse, coût de l'opération, oui, on en est pour sa poche. Hein. Moi, j'ai 250 pages, donc ça, ils veulent que du recto pour lire vite. Donc 250 pages à imprimer, si vous faites une reliure classique propre, pour un manuscrit, bon, moi j'ai toujours mon imprimeur qui a imprimé mes magazines depuis l'époque, hein, pour 7ème dimension, bon, il m'a fait un prix, mais on en est quand même à 10 balles, voilà, et le fait de l'envoyer, c'est 10 balles, voilà. Donc un éditeur qui demande un manuscrit, c'est 20 euros de votre poche, et on compte pas le temps que vous avez passé à écrire votre roman, ça vous regarde, voilà. Donc, voilà, je vous donne une info. Donc, ça veut dire que moi, j'ai pas envoyé à tout le monde, hein, j'ai fait une présélection, mais globalement, j'en suis pour 100 euros de ma poche, juste pour envoyer à des gens où ça finira peut-être à la poubelle. Et après, ils demandent aussi, donc ça c'est l'autre côté, ils demandent aussi, si on veut récupérer le manuscrit, ben de leur fournir le retour timbré. Donc il faudrait refournir 10 balles de plus. Moi ça ira. Enfin, comme je compte me l'éditer moi-même, je m'en fous du manuscrit qu'ils le balancent, et j'ai fait la démarche. Mais bon voilà, c'est comme ça. Mais moi, l'idée pour moi, c'est de cocher la case jusqu'au bout. C'est de me dire, voilà, à la question « est-ce que ça serait possible pour toi d'écrire des œuvres ?» Eh bien, j'ai été jusqu'au bout de la démarche. Maintenant, si je ne suis pas édité, ben c'est pas grave. Moi, j'ai déjà un métier, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas grave. Pour moi, c'était cocher cette case-là. Et alors, j'en parle dans un podcast. Ce podcast, on ne va pas se mentir, hein, c'est pas le podcast le plus écouté de France, hein, loin de là. Hein. Donc, au final, je fais un petit peu mon auto-promo, mais ça s'adresse à très peu de personnes. Voilà. Vous voyez, ce podcast reste écoutable gratuitement. Je vous demande pas d'aller sur une plateforme comme Tipeee ou Patreon pour me donner de l'argent, on s'en fout. Si j'ai le moyen de parler dans un micro, de le monter, de le mettre sur les plateformes, c'est que j'ai déjà le matos, on s'en fout. Voilà, on s'en fout. Ça va pas devenir mon métier, être podcasteur. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est quelque chose d'annexe. Donc effectivement, écrire pour moi un livre, c'était avant tout un plaisir et le fait de cocher cette case. Voilà, c'est ça l'important pour moi. Et comme chaque chose, je veux que ça en ait la forme. Voilà, je veux pas que ça soit un simulacre de quelque chose. Donc effectivement, ce livre aura un écrin qui est physique. Ça sera pour moi un vrai livre. Donc maintenant, je vais faire aussi ce drôle d'exercice. Alors, bien entendu, l'idée pour moi aussi, c'est de vous donner un échantillon pour ceux et celles, voilà, qui me suivent, de ce que ça peut donner. Donc je vais vous lire ce que j'ai appelé la note d'intention de ce tome 1, le chapitre 1 et le chapitre 2. Alors moi, je ne suis pas un fervent, on va dire, consommateur de contenu audio de gens qui lisent. Donc je vais essayer d'y mettre les formes. Donc ce n'est pas un audiobook non plus. Voilà, c'est pas un épisode de podcast, mais je vais essayer de vous raconter en tout cas cette première partie. Et n'hésitez pas de m'envoyer des retours en MP. Alors bien entendu, si vous êtes un hater ou une hateuse, eh ben, écoutez, vos retours, vous les mettez dans le cul en fait. Voilà, donc on va le dire directement. Donc c'est-à-dire, donc je prends les retours qui sont valables, voilà, et pas les retours du genre « il a écrit un livre pour faire ça », enfin bon, voilà. Donc bon, c'est pour ça que je vous ai déjà une spé dédicace d'entrée de jeu, on s'en fout, voilà. Donc si le podcast ou ce que j'écris ne vous plaît pas, eh bien n'écoutez pas et ne lisez pas, voilà, ça s'appelle la liberté en fait. Comme le disait un groupe de merde que j'aime bien écouter, parce que bon, c'est un petit peu l'équivalent du Big Mac dans le métal, hein, qui est Rise of the North Star. T'as ce chanteur qui dit ça avec une naïveté débile, du genre « Si t'aimes pas, bah t'écoutes pas !» Ouais, il dit ça comme ça, bah oui, forcément, sacré parole, mec. Hein. Donc, mais bon, ça me fait toujours rire, mais on en est là. Donc, effectivement, alors, du coup, donc cette œuvre, parce qu'au final, ça s'intitule comme ça, ce sont les chroniques d'un quadra, ça n'a pas changé. Ce sont les chroniques d'un quadra, mais version littéraire. Mais chaque titre de tome arrive avant. Par exemple, le premier tome, c'est « Ceci n'est pas une histoire d'amour », tome 1, chronique d'un quadra. Voilà. Le tome 2 sera « Voyage en terre du milieu », tome 2, chronique d'un quadra. Et le tome 3, déjà, je peux déjà le dire, « À la poursuite de demain », tome 3, chronique d'un quadra. C'est comme ça que je le vois. Et je les imagine, parce que je fais travailler aussi les couvertures en parallèle, pour que, une fois les bouquins alignés, il y ait une sorte de cohérence entre les trois couvertures, quitte à ce que ça forme une seule et même image. Voilà, mais oui, je pousse le délire comme ça. Et que même quand vous les rangez dans votre bibliothèque, voilà, qu'au niveau de la tranche aussi, il y ait une idée globale et que ça soit agencé. Voilà. Donc c'est une structure ternaire, donc il y a trois parties, donc trois tomes. Donc normalement, c'est pas comme la trilogie Matrix, il n'y aura pas un chronique d'un quadra Resurrection. Normalement, on ne devrait pas en être là. Donc voilà, bon, assez bavardé là-dessus. Je pense avoir fait les choses correctement sur cet épisode qui est, bon, comme d'habitude, de la pure impro, mais que j'essaye un petit peu d'organiser. C'est-à-dire même jusqu'au choix de la musique. Voilà, vous aurez reconnu ce titre des Rolling Stones qui a accompagné la série Californication avec Hank Moody. Donc, c'est à ce moment-là où je vous demande de vous installer confortablement et je vais essayer de mettre les petits plats dans les grands pour, on va dire, utiliser ce que je sais faire vocalement pour essayer de construire une sorte de, oui, on va dire, d'audiobook. Qui sait ? Peut-être que c'est moi qui m'occuperai de faire la version audiobook pour les plateformes dédiées. Ça sera à vous de juger. Ceci n'est pas une histoire d'amour. Tome 1, chronique d'un quadra. Note d'intention. L'enfer de la page blanche. Une expression tellement usée qu'elle est devenue sa propre parodie. Signe d'une époque qui tourne culturellement en circuit fermé. Présente au cinéma, à la télévision, en littérature, on dirait presque que c'est le starter pack obligatoire de tout bon écrivain en devenir, ce qu'assurément, je ne suis pas, ou du moins ce sera à toi, cher lecteur, chère lectrice, de me coller ou non une telle étiquette. Et au final, je viens en une seule phrase d'exprimer tout l'optimisme qui ne me caractérise guère. En misant sur le fait que ce qui commence sur cette fameuse page blanche sera sûrement lu par quelqu'un. Je trouve que c'est une bien belle manière de commencer ce qui s'apparente à un savant mélange entre mon vécu et une version romancée de celui-ci. Ou quand Chuck Palahniuk se raconte lui-même pour mieux se réinventer en Tyler Durden, dans un certain roman qui traitait déjà du malaise existentiel masculin, un certain Fight Club, à ce qu'il paraît, foutu contexte. Il est loin le temps de Charlie Ingalls où une fois sorti de la Syrie, et après avoir joué deux ou trois airs de violon, on voyait nos cheveux se griser rapidement, notre dos se voûter et hop, une fois la quarantaine franchie, direction le cercueil et les écueils. Mais bon, grâce au progrès de la médecine, nous avons désormais plus de temps. Un luxe, paraît-il. Et qu'est-ce qu'on en fait ? On réfléchit. Puis on réfléchit. Et on réfléchit encore. Autobiographie ou non, étant un homme, il faudra forcément que je grossisse le trait par moment. Si tu es une lectrice, tu connais déjà un peu la musique qui se profile à ton oreille. Là où je relaterai mes exploits sexuels avec le sexe opposé, là où un nombre de conquêtes sera avancé, tu le diviseras forcément par deux. Et là où il sera mention de coït, tu sauras que la plupart auront été simulés. Non pas par pitié, mais plutôt par courtoisie. À l'heure où l'on prône l'équité, l'égalité entre les hommes et les femmes, je trouve que cette idée du coït simulé est peut-être quelque part la plus belle expression de cette complémentarité tant recherchée entre les deux sexes. Mais ne nous égarons pas sur cette partie qui arrivera bien plus tard, dans une autre partie ou volume, tome, allez savoir. Là, nous en sommes sur la note d'intention, et ce que j'aime appeler quand je suis en cours face à mes étudiants, la légitimité de l'intervention. Ou dans le cas de tout acte artistique, quel qu'il soit, le fameux passage à l'acte. Ah oui, je ne vous l'avais pas dit, je suis l'un des derniers représentants de ce qu'on appelait jadis un enseignant. C'est fou, non? Et dans un contexte sociétaire, où il est bon ton de se catégoriser, car ne l'oublions pas, si le plan Marshall nous a amené les superproductions américaines dès la fin des années 50, la Covid-19, d'ailleurs pourquoi là et pas le mystère, et le web nous ont quant à eux amené le wokisme. Et là vous vous dites en même pas quelques lignes et dès la première page, il met déjà les pieds dans le plat. Quitte à en être là, un petit coucou à Frédéric Becbédé s'impose. Donc au vu de mes multiples activités et cette envie de fuir l'ennui, ne suis-je pas déjà en train de la fuir en écrivant tout ça? Il serait bon ton de me qualifier de HPI, d'hypersensible, de surefficient, voire même de zèbre, tout un tas de qualificatifs ronflants qui n'ont de sens que dans une époque qui en est en sérieuse perte. Au revoir le couple, au revoir le mariage, au revoir les enfants, ce n'était pas bonne nuit d'ailleurs, au revoir la religion, au revoir la science, au revoir la confiance, on continue? Et vous pourriez vous dire à ce stade que tout ce qui va suivre n'est qu'un tissu de mensonges, de vaines calomnies, de sombres élucubrations, des problèmes de riches, et vous n'auriez sûrement pas tort. Je ne compte pas avec ces malheureuses pages changer quoi que ce soit au schmilblick que je vais relater. D'ailleurs, quelqu'un le peut-il, le veut-il? Le but dans tout ça, tout modeste soit-il, est de constituer un instantané de la vie d'un homme, dans ce joyeux bordel foutoir qu'on appelle la vie. Un récit qui, je l'espère, vous fera sourire, ou du moins esquisser le début d'un marqueur de félicité, si votre bouche n'est pas complètement refaite au collagène, car il saura peut-être vous tirer quelques larmes qui ne seront pas issues d'une quelconque allergie saisonnière. Un bien joli programme à lire, à écouter, accompagné du son intemporel du Wonderful World de Louis Armstrong. Comment ça, il n'est pas sur Spotify? Je disais, tout du moins, je balbutiais l'idée que j'étais pluridisciplinaire. Mon corps de métier principal, l'audiovisuel, notamment la confection de programmes télévisuels, appelés télé-réalité, qu'apprécient tout particulièrement les barbares contemporains. Télé-réalité où qu'en deux mots antinomiques l'un de l'autre faisait sens pour mieux décrire un phénomène loin d'être une nouveauté, je parle bien sûr de la médiocrité. Très tôt, ça remonte à l'enfance, ne vous inquiétez pas, un autre tome se chargera de relater tout ça. J'aurais caressé le doux rêve de bosser dans le milieu cinématographique. La France n'était pas anglo-saxonne, jusqu'à preuve du contraire, cet espoir se transforma en fantasme, puis en chimère. Au lieu de ça, et par le plus grand des hasards, c'est la petite lucarne, comme on se plaisait à l'appeler pendant un temps, qui m'ouvrit grand ses bras. Pas que je regrette une seule seconde chacune de ces secondes que j'ai assemblées pour elle, mais en vérité, bosser en télévision n'a jamais été une ambition première, même si elle m'a appris énormément de choses. Je crois que sans elle, je ne nourrirais pas mes cours de nombreuses anecdotes que seul ce domaine est capable de générer, au même titre que les nombreuses particularités des gens qui y travaillent. Le montage, car il faut bien choisir une discipline, est celle qui m'a le plus attiré. Peut-être cela venait-il de mon enfance solitaire à assembler des boîtes de Lego. Je devenais donc monteur. Mais c'est quoi un monteur? Selon le glossaire des métiers proposés par Pôle emploi, d'ailleurs je vous conseille fortement l'expérience de demandeur d'emploi au moins une fois dans votre vie, cela consiste apparemment à assembler des échafaudages. Au cinéma, quand un scénario est cousu de fil blanc, on parle le plus souvent de grosses ficelles, voire de poutres apparentes. Donc monter les aventures non sensiques d'aspirante Nabila et compagnie, c'est finalement plus ou moins monter des échafaudages. Merci Pôle emploi, il m'aura fallu 20 ans d'expérience, 2 divorces, une banqueroute, 3 podcasts, et désormais ce qui s'apparente à un livre pour avoir l'introspection nécessaire à la compréhension du sens de mon métier. Et des échafaudages, j'en ai monté grand Dieu. Des échafaudages dans les sports mécaniques, pour des marques diverses et variées, pour de l'aviation, du spatial, de l'armée et du moins armée, mais aussi du médical et de la cosmétique. Ça en fait du kilomètre de poutre. J'aurais même pu ajouter, il en a du kilométrage. Mais comme je le dis souvent en présentiel, on fait rarement de vieux os dans un secteur aussi fluctuant que celui des médias télévisuels. On y acquiert de la technicité très rapidement, mais en aucune manière de quoi vivre comme Jordan Belfort. Si vous choisissez l'audiovisuel ou la création vidéo comme moyen de gagner de l'argent, c'est que vous êtes trompé sur toute la ligne. La télévision est à l'image de ce qu'elle met en image, de l'instantané prêt à consommer, et c'est ce qui vous attend si vous bossez pour elle. Être prêt à être consommé, digéré, puis recraché. D'où l'importance de ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, ce qui vous fera gagner du temps dans vos lectures futures, en tant qu'aspirant indépendant ou chef d'entreprise, toujours varier les sources de revenus. L'enseignement tombait donc sous le sens. Restez encore à trouver la bonne posture, la bonne méthode, car on ne s'improvise pas intervenant du jour au lendemain. C'est là que Jordan Belfort repointe alors le bout de son nez, car au final, tenir un cours magistral sur une technique de prise de vue ou de montage revient à vendre, à une assemblée crédule, l'équivalent d'un putain de stylo. Mais nous y reviendrons en temps utile. Revenons donc à la base de ce fameux passage à l'acte dont je parlais il y a quelques lignes de cela. Pourquoi écrire? Est-ce que ça va être d'une quelconque utilité? Est-ce que c'est nécessaire? Et c'est en cela que réside, du moins je l'imagine, ce problème de la page blanche, qui est l'intitulé de cette toute première note d'intention. Comme je le dis souvent de manière orale, au travers de mes nombreux podcasts, qu'ils traitent de cinéma, de musique, ou bien de sujets bien plus sérieux, féminisme, comme les relations hommes-femmes, est-ce une bonne chose d'ouvrir sa gueule? Comme le disait Stephen King dans son essentiel ouvrage Écriture, si vous comptez écrire en édulcorant les faits, et en essayant de ne froisser personne, autant ne pas le faire, car le point de départ est forcément biaisé. Partant du principe que la voix masculine, en ce qui concerne l'écriture, est monopolisée au choix par des dandys menant une vie que le commun des mortels ne connaît pas, ou bien par des nantis où tout leur sourit, je me suis dit, toujours modestement, hein, qu'un créneau était forcément à prendre. Et comme je l'ai compris assez tôt, via les écoutes répétées et incessantes d'albums de rock, de punk rock, d'hip-hop, que la hargne originelle, la tristesse et la volonté de s'extraire d'une situation donnée insupportable sont le terreau propice aux œuvres les plus inspirées. J'espère juste souffrir suffisamment afin que l'inspiration elle-même daigne me prendre en pitié. Parce que c'est un peu ça Chronique d'un Quadra, un voyage au cœur des pensées d'un homme issu de la classe moyenne et qui, au travers de son parcours, ses expériences de vie, tente d'y trouver un sens, une raison, une direction. Pas de grandes origines, pas de grands desseins ou de grandes espérances, juste le témoin, celui d'une génération en perte de repères. Greg Araki, cinéaste indépendant américain, ne tarderait pas soigneusement glissé entre deux Tarantino, à nous livrer son sentiment au travers d'un titre lourd de sens, Doom Generation. C'est aussi à ce moment-là qu'il est judicieux de raccrocher les wagons avec le fameux Tyler Durden, qui dans les années 90 nous avertissait déjà que nous n'avions pas de grande guerre, que nous étions les rejetons illégitimes de Dieu, et que quelque part, il se pouvait même que Dieu ne nous aime pas, tout un programme. Sachez en gage de ma bonne foi que j'appliquerai à la lettre les recommandations de mes illustres prédécesseurs, c'est-à-dire ne relater que des faits réellement expérimentés. A l'inverse, ne m'en voulez pas d'exagérer certains passages, car comme dit en préambule, je reste un homme parmi les autres, donc forcément, je vous invite à diviser tout ce qui sera dit par deux. C'est aussi une manière de créer le doute dans votre esprit, et que la pilule, voyez-le comme ça, passe un peu mieux. A partir de là, vous et moi sommes prêts pour ce qui va suivre. Je finirai avec une note plus glorieuse à ce stade, en dédiant cet ouvrage à ma fille, celle qui a changé ma vie à jamais, et à qui je répète souvent la chose suivante, personne ne peut te dire ce que tu es capable de faire. Ce qui n'est pas de moi, mais d'un certain John Locke, dans cette série qui fit couler beaucoup d'encre à l'époque, Lost. À ma famille, qui s'ils ne sont pas parfaits, ont su quoi qu'il arrive, avoir les bons mots, même s'ils n'ont jamais trop compris qui j'étais. Aux femmes qui ont partagé ma vie et à celles qui la partageront. D'ailleurs, pour ces dernières, je vous souhaite bien peu de névrose, car personnellement, j'ai assez donné. Et bien sûr à mes amis, tout particulièrement toi Nico, qui par deux fois a toujours été là pour moi, au pire moment. Mais méfie-toi, jamais 203. Chapitre 1. Jusqu'ici tout va bien. 10 février 2021. Il n'est pas loin de 17h et je viens juste de regagner mon appartement. Trois jours auparavant, je quittais les lieux pour me rendre en Drôme Provençal, un petit village reculé nommé Chamarré. Coincé entre les vignes de Saint-Paul-Trois-Châteaux, le vin rouge de l'enclave des Papes, le château de la comtesse de Ségur et le nougat de Montélimar. Un mets très apprécié par les touristes et que j'ai toujours détesté au plus haut point. Trop mou, trop sucré, trop collant. Pas que j'éprouve le besoin pressant de me taper un peu moins de 4 heures de route aller et tout autant en retour pour aller me ressourcer au milieu de nulle part, là où contrairement à ce qu'avait annoncé notre président Emmanuel Macron, le Wi-Fi, la 4G ou même la 3G ne semblent pas vouloir trop se presser. Et pourquoi faire d'ailleurs ? Permettre au plombier du coin de désinguer la seule duchesse disponible à 50 km à la ronde sur Tinder ? Car si la Mongolie est le pays avec la plus faible densité de population au mètre carré, je me demande si la Drôme provençale ne pourrait pas concourir à un double titre. Celui de la région de France ayant à la fois la plus faible densité de population, en même temps qu'elle possède le plus faible quotient intellectuel par individu au mètre carré. Il ne s'y passe tellement rien que le boulanger du coin est capable de vous reconnaître 20 ans plus tard et vous saluer en mode « Hey, toi tu as réussi mon garçon, tu es parti à la ville !» Alors que vous pourriez être le pire parasite du pôle emploi de cette même ville, apparemment pleine de réussite. Mais ce n'est pas pour ces croissants et ces considérations qui font toujours plaisir que je suis plus ou moins retourné à mon point de départ. J'en suis là car ma vie, mon couple, mon mariage sont devenus insupportables. J'avais quitté cet endroit reculé des rêves plein la tête et sans volonté aucune de regarder en arrière. Et l'endroit qui auparavant me faisait horreur est désormais un havre de paix. Quand on en arrive à ce genre de constat, c'est qu'on n'est pas loin de toucher le fond. Comment suis-je arrivé là? Pour cette connerie qu'on appelle l'amour. Ah, l'amour. Si on était dans la saga Indiana Jones, ce serait à la fois le Saint Graal et en même temps l'Arche d'Alliance. Un bibelot ancestral capable de vous procurer la vie éternelle tout en vous foudroyant une fois que vous l'avez ouvert. Un simple mot qui pourrait presque définir l'humanité dans son entièreté. Jugez plutôt. La littérature, et quelle que soit sa spécificité, poésie, nouvelle, roman, biographie, ce livre quelque part, La musique, qu'elle soit classique, avant, électrique, à la gloire de Dieu ou de Satan, le cinéma, l'architecture, le théâtre, Molière ou les explorateurs de l'Interstellar de Christopher Nolan, tout le monde cherche l'amour. Et dans une société néo-capitaliste, l'amour c'est une musique. Mieux, une symphonie qui fait frétiller toutes les oreilles des grandes corporations soucieuses de notre bon asservissement quotidien. Tout est amour. Du pauvre type s'astiquant devant son écran, Pornhub, YouPorn, OnlyFans, Instagram, Snapchat, à celui marchandant son intérêt au supermarché de la rencontre. Et les enseignes ne manquent pas, Tinder, Adopt, Happn, Mythique. L'amour est une denrée rare et elle se négocie à prix fort. Donc pourquoi me blâmer d'en être là où j'en suis? N'ai-je pas trouvé l'amour? N'ai-je pas réussi ma quête? Chaque histoire d'amour couchée sur pellicule se cache bien de nous raconter ce qu'il advient ensuite. Ils vécurent heureux à jamais et eurent beaucoup d'enfants. On fantasme la rencontre, mais ce qui arrive ensuite n'intéresse personne. Seul le voyage compte. Alors pourquoi me plaindre? J'ai enfin mon Saint Graal, mais comme dans la dernière croisade, j'ai bien mal choisi mon calice. Et le breuvage qu'il contient est un poison. Un poison d'un mètre 70 à la chevelure impeccable, au maquillage subtilement aguicheur, dont le jeu de jambes et le sourire n'ont rien à envier au sex appeal dévastateur d'une Amber Heard rencontrant Johnny Depp lors du tournage de Rome Express. Une mécanique de guerre bien huilée et d'une redoutable efficacité quand il s'agit de nuire à huis clos. Un poison tel que le 9 février 2021, je suis au milieu du salon de mes parents, en plein après-midi, j'ai le cerveau complètement mort. Je suis vidé, épuisé, et le constat est lourd. Ma société est prête à mettre la clé sous la porte, criblée de dettes alors que je devais en récolter les fruits à 40 ans passés. Ma fille, issue d'une précédente union et dont j'avais obtenu la garde après une longue et épuisante bataille juridique, n'est plus là, depuis trop longtemps déjà. Je n'ai plus goût à rien et je ne sais plus quoi faire. Et pour quelle raison? Parce que je l'aime elle, celle qui me détruit chaque jour un peu plus. Et le comble dans l'histoire, c'est que c'est moi qui lui ai en quelque sorte donné les clés de la baraque. Le con, diraient certains et certaines. Parce que je l'aime encore une fois. Alors oui, s'il vous plaît, parlez-moi un peu d'amour. Parlez-moi de cette quête, car je ne devrais pas me plaindre. Je l'ai elle, le dragon, ma némésis, mon enfer personnel. Et je l'ai bien mérité, car c'est moi qui suis allé la chercher. Pour bien comprendre ce que j'appellerai un peu plus tard les heures sombres, il faut avoir au moins connu une fois dans sa vie ce qu'est une emprise psychologique. Contrairement à Pôle emploi, ce n'est pas une aventure que je vous conseille. Cela ferait de moi un criminel, et même à mon pire ennemi, je ne lui souhaite pas. Ceux et celles qui ont connu une telle situation se reconnaîtront dans ces lignes, et dans cette partie. Les autres ne peuvent qu'imaginer, car pour le comprendre, il faut l'avoir vécu. Et pour que vous en saisissiez un peu plus les contours, il me faut le raconter. Comme toute bonne histoire qui se respecte, il y a un début, un milieu, une fin. Dans le jargon, on appelle cela une structure ternaire. Et des structures ternaires, vous en trouvez de partout. En littérature, en musique, au cinéma, et l'éducation nationale en a fait un sport national, avec la dissertation. D'ailleurs, si on se réfère à son mode de fonctionnement, c'est-à-dire le thèse, antithèse et synthèse, deux variantes peuvent exister, le oui-mais ou le non-mais. Dans cette histoire que je couche désormais sur le papier, je pourrais tout aussi bien l'argumenter avec un « c'était bien de la merde, mais » ou « ce n'était pas tant de la merde que ça, mais ». Je préfère taper un entre-deux, si vous le voulez bien, avec une option pour le premier cas de figure. Et j'imagine donc que ça va donner un « en fait, c'était de la merde dès le départ, mais tu ne savais pas à quel point ». Vous noterez le positionnement judicieux du « mais ». Donc voilà pour ces deux premiers extraits. J'avais dit trois, mais en même temps, et il faudra acheter le bouquin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'était la note d'intention et ce premier chapitre qui s'intitule « Jusqu'ici, tout va bien ». Il y en a 12, il y en a 12, et ça fait 250 pages, voilà. Et je vous tiendrai au courant de sa disponibilité, donc save the date, comme on dit. Donc ça sera pour janvier, pour la fin janvier 2024. Donc c'était un petit épisode bonus, voilà, en mode lecture. Donc j'espère que ça passera plutôt bien à l'écoute. Vous me ferez le retour. Vous me direz ce que vous avez pensé de ces premières lignes, en fait, de ce premier extrait. Et nous, normalement, on devrait se retrouver assez rapidement, je pense, soit fin octobre, non pas pour Halloween, hein, mais soit fin octobre ou début novembre, pour cet épisode dédié à la séduction, où je vais remonter aux sources de la séduction et parler de séduction contemporaine, voilà, de la spécificité aussi des peuples latins comme le nôtre. Et j'ai fait une petite dédicace, je ne sais pas s'il écoutera, j'ai trouvé un nouveau compadre. Je pense qu'il va amener du lourd, donc quelqu'un qui n'est jamais encore intervenu à Chronique d'un Quadra, et j'ai envie de vous dire, je tease un peu le truc, il en a à revendre, et je pense qu'on tient quelque chose de bien, donc Si on enregistre cet épisode, comme il me l'a dit, il y a des chances qu'on soit banni des plateformes d'écoute, et c'est plutôt ça qui me plaît. Donc je vais conclure, bah, comme d'habitude, cet épisode bonus, hein, donc à Chronique d'un Quadra, on décomplexe les sujets complexes, il n'y en avait pas trop aujourd'hui, et je vous remercie chaleureusement pour votre écoute.
Comme moi, il faudra bien que tu comprennes tôt ou tard qu'il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin.
C'était Chronique d'un Quadra, le podcast sans langue de bois qui décomplexe les sujets complexes.